Quelle place dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui cette prière du rosaire, et comment la parole de Dieu nous interpelle aujourd'hui, parce que vous savez, à travers des textes de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, qui veut dire la révélation, et l'Apocalypse, contrairement à ce qu'on croit toujours, il y a un livre qui fait peur, hein, Apocalypse Now, alors on voit Rambo qui débarque avec ses trucs, et ça pète tous les côtés. C'est pas du tout ça l'Apocalypse. L'Apocalypse est le plus grand livre d'espérance de toute la Bible. Parce qu'au cœur de l'Apocalypse, il y a la victoire du Christ. Le Christ, l'agneau immolé, a vaincu le monde. Par l'amour plus fort que la mort, par l'amour plus fort que tout, eh bien le Christ a gagné. Et ça, je crois que c'est un signe d'espérance incroyable. Dans l'Apocalypse, on a cette vision, des visions grandioses de combat, de guerre cosmique et tout ça. Il n'y a qu'une certitude qui transparaît là au milieu et qui traverse tous ces écrits, tous ces récits, c'est la victoire de l'agneau, devant lequel tout le monde se prosterne. Ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont accepté, puisque tout genou fléchit devant le Christ, au ciel, sur terre et aux enfers. Toute langue proclame qu'il est Seigneur et Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Ce combat de l'Apocalypse se joue autour de la femme qui est revêtue de soleil avec la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles. Elle se joue autour de la femme à cause de l'enfant, qui est Jésus, bien sûr, et pour les enfants de cette femme que nous sommes. Le démon, le dragon qui poursuit cette femme dans le désert, Marie, cette femme, en fait, l'enjeu, c'est notre cœur. L'enjeu, c'est notre cœur. L'arme du rosaire a été vécue dans l'Église pour lutter, pour mener ce combat, un peu comme une fronde de David, à la fois aussi comme l'arme du chrétien dans les combats de chaque jour. Et puis ensuite, on va voir comment la parole de Dieu peut nous interpeller pour rester fidèles avec Marie à ce que Dieu nous demande de vivre aujourd'hui. Le père Lacordaire, qui parlait du rosaire, on dit « mais c'est répétitif, c'est casse-pied, tout ça ». Il dit « vous savez, l'amour n'a qu'un mot et en le disant toujours, il ne se répète jamais ». L'amour n'a qu'un mot. Quand on dit « je t'aime », on peut le dire 1000 fois à la personne, on s'en lassera jamais. L'amour n'a qu'un mot. Et en le disant toujours, il ne se répète jamais. Ce n'est pas une répétition. Quand on veut dire « je t'aime » à quelqu'un, on n'enregistre pas notre « je t'aime » et on met « repeat » et puis on y va, là, 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 là. Ce n'est pas la même chose que de dire de vive voix, ouais, quand vous comprenez. Il y a une différence entre enregistrer un disque où on dit « je t'aime » et puis le dire chaque fois, le redire et le redire à la personne avec des tons, avec des accents, avec des regards différents. Eh bien, la répétition de l'Ave Maria, du « Je vous salue Marie » appartient à ce langage de l'amour. Ce langage qui, tout en se répétant, tout en se redisant, ne se répète jamais parce qu'il est dit avec un ton particulier. Et cette joie que l'on vit en disant « Réjouis-toi Marie, Ave Maria », en grec ça se dit « Kairé ». C'est la joie messianique, c'est l'attente de la grande joie, la joie que l'humanité recherchait partout et qu'elle n'a pas trouvée. Dans le miracle de Cana, Marie s'approche de Jésus et dit « ils n'ont plus de vin ». Or, dans le langage biblique, ce n'est pas seulement le fruit de la vendange, même si elle était très bonne cette année. Le vin est l'image de ce qui réjouit le cœur de l'homme. Ce que Marie veut dire à travers ça, c'est que l'homme, l'humanité, a perdu la joie. A perdu la joie. Et Jésus lui dit « mon heure n'est pas venue », c'est vrai, parce qu'il ne va pas ce soir-là à Cana redonner la joie aux hommes, même s'ils seront un petit peu joyeux parce qu'ils sont éméchés après avoir bu le bon vin que Jésus a donné la deuxième fois. Ce n'est pas ça la joie. On sait bien que c'est des faux plaisirs, c'est des fausses joies. Il reste parfois que la gueule de bois et la tristesse après une joie comme celle-ci, donc ce n'est pas très réconfortant. Et alors, la vraie joie, elle viendra lorsqu'il versera son sang, lorsqu'il transformera ce vin en son propre sang. Après avoir transformé l'eau en vin, il prendra ce vin pour le transformer en son sang. Et là, il y aura la vraie joie, parce que là, le Christ vient racheter l'humanité par son sang. Là, le Christ vient sceller les noces dans son sang avec l'humanité. Et désormais, plus rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Rien, rien, rien. Saint Paul dira « ni la mort, ni la tribulation, ni les épreuves, ni la maladie, ni la souffrance, ni la guerre, ni le démon, rien ne peut nous séparer, si ce n'est notre refus d'être unis à Dieu. » Voilà, c'est la seule chose, notre refus d'être unis à Dieu. Alors, cette répétition de la prière, c'est une expression de l'amour, une expression de l'amour qui est là. Claudel commentait ainsi la prière du chapelet, « cette poignée de grains agglomérée, qu'épelle le doigt, je vous salue Marie, du milieu de la main qui prie. Chaque grain vocal entre la langue et le palais, qui est comme un souvenir, une communion, un émerveillement, une demande. Chaque grain a une note particulière par rapport à ça. Alors, l'histoire du rosaire vient d'assez loin, elle a été développée au cours des siècles. On sait que Saint Dominique était parti dans le désert, enfin dans une forêt pour prier, parce qu'il y avait à l'époque une hérésie qu'on appelait l'hérésie des Albigeois, de la région d'Albi, du sud de la France. Ces gens avaient un tas de théories un peu non conformes à ce que l'Église avait confessé jusque-là, et puis les autres sont partis un petit peu en guerre contre eux, c'était pas très, très bien, mais Saint Dominique a amené un autre combat contre les Albigeois, non pas avec les armes, mais avec la pauvreté évangélique. Et ils se disent aussi, mais comment donc vais-je pouvoir vouloir vaincre ces hérésies, ramener les gens à la vraie foi chrétienne, à l'humilité de l'obéissance. Marie lui est apparue en lui indiquant que l'arme dont la Sainte Trinité voulait se servir pour réformer le monde, c'était la prière du chapelet. Et saint Dominique se leva, il courut jusqu'à Toulouse, il fait sonner les cloches, la foule vient à l'église, et puis il annonce que maintenant, pour vaincre cette hérésie, pour vaincre cette erreur, pour arrêter le sang qui coulait partout, eh bien il fallait reprendre la prière du chapelet. Le rosaire apparaît un petit peu comme l'arme de David contre Goliath. Vous savez, Goliath, c'était ce grand héros des Philistins qui baraquait comme tout, un balèze, quoi. Les Juifs et les Philistins se disent, on va pas se taper sur la figure les uns les autres. On choisit chacun un héros, il se tape dessus, puis celui qui a gagné, ben, il a gagné pour tous les autres. Alors les Philistins avaient ce grand Goliath qui était là, puis David, c'était le gringalet qui débarquait des champs. Les Juifs disent, on va prendre David. Alors quand le Philistin a vu ça, il dit, vous foutez de ma gueule, et il faut qu'il aille s'échauffer un petit peu avant, et puis il reviendra plus tard quand il aura mangé de la soupe. Enfin, il était insulté qu'on lui mette en face de lui une personne aussi faible que David. Seulement, David avait d'autres armes et c'était la fronde. Devant ce Goliath qui représente au fond toutes les forces puissantes qui paraissent vouloir nous écraser, eh bien David a une petite fronde qu'il envoie avec un caillou qui tape au front du Goliath et qui s'effondre comme ça. Et le rosaire, un petit peu, c'est cette arme des pauvres, cette prière des pauvres qui vient toucher en plein cœur. Des jeunes à Tahiti, je crois, ou à Haïti, je ne sais plus laquelle des deux îles, mais qui avaient à côté de leur appartement des drogués qui squattaient avec la musique à plein tube. Puis ils en avaient marre. Eux étaient chrétiens, mais il y avait ces gens qui étaient là à côté qui, un jour, ils disaient, on n'en peut plus. Ils ont trouvé le truc, ils sont allés dedans, alors que les autres étaient complètement shootés avec la musique à plein tube. Et puis, ils sont mis à genoux, ils ont pris le chapelet. Ça a eu un tel effet que ces jeunes drogués ont fait tout un chemin, sont sortis de la drogue et ont fondé une communauté qui s'appelle les Apôtres de la Paix, qui sillonne un peu le monde comme ça pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile par cette prière. Enfin, c'était vraiment la prière du dernier recours, et pour David, c'est aussi cette prière qui était là. C'est une prière qui est aussi éminemment évangélique, puisqu'on redit des paroles de la Bible, puisqu'on médite les mystères de la vie du Christ. Ça nous rappelle peut-être aussi que cet abandon confiant qu'on peut en voir en Marie à Notre-Dame de Bourguillon, à Fribourg, il y a trois ex-voto qui sont intéressants. Le premier, c'est celui de la foi confiante, dans laquelle va nous introduire la prière du chapelet. Merci Marie de m'avoir montré qu'on obtient tout par la prière. Cette espèce d'abandon. Oui Marie, j'ai confiance en toi, je sais que le Seigneur écoute ma prière. La deuxième chose qu'on va prendre, c'est la persévérance. Il y a aussi un ex-voto qui dit « J'ai vu qu'une grâce retardée n'est pas une grâce refusée ». Peut-être qu'il met du temps, le bon Dieu, à exaucer ce qu'on lui demande. Une grâce retardée n'est pas une grâce refusée. Non, mais tout de suite. Ben non, c'est pas tout à fait comme ça que le Seigneur travaille. Ce qui sait mieux que nous, ce qui est bien pour nous, et il attend un petit peu. Et puis l'abandon confiant entre les mains du Seigneur. Il y a un ex-voto qui est admirable. Ô Marie, merci de ne m'avoir pas exaucé, puisque je te demandais mon malheur. Trois ex-voto qui nous introduisent dans trois mystères de la prière du chapelet, à la fois la foi confiante, la persévérance et l'abandon confiant, que Marie nous donnera tout ce qu'on voudra. Ce combat de David et Goliath, c'est pour nous introduire finalement dans la joie chrétienne. Cette joie que rien ni personne ne pourra nous arracher, cette joie que Dieu seul peut nous donner. Le rosaire, la rose, est le symbole de la joie dans la tradition. C'est Pie XII qui rappelait ça, que le rosaire venait du mot rose et qui symbolise la joie chrétienne. Et Marie, il l'invoquera comme cause de notre joie. En 1955, il appellera Marie cause de notre joie. Et au fond, c'est vraiment cela. Jean-Paul II disait « Ave Maria, réjouis-toi Marie, cette douce prière retentit joyeusement dans les lieux de culte, dans les sanctuaires. Puisse-t-elle scander les pas de ceux qui avancent sur les routes du temps, les pas du peuple de Dieu en marche. Puisse le chapelet redevenir la prière habituelle de cette église domestique qu'est la famille. La prière du rosaire apportera dans notre monde, avec le sourire de la Vierge Marie, les accents de la tendresse de l'amour de Dieu pour l'humanité, à la fois audacieuse et inquiète du XXe siècle. » Le sourire de la Vierge Marie et la tendresse de Dieu. Et même dans les mystères douloureux, voyez-vous, on continue à dire « Kaïré, réjouis-toi ». Même quand on médite la passion du Christ, même quand on médite la croix du Christ, on dit « Réjouis-toi ». Parce que là au milieu, il y a justement une joie, c'est la joie du salut. Et ça, c'est pas une illusion, voyez-vous. C'est pas des paroles en l'air. C'est complètement déconcertant aux yeux du monde, aux yeux de ceux qui restent uniquement en façade et qui font pas voir peut-être derrière la façade l'autre réalité, cette réalité invisible, mais plus réelle que la réalité que l'on peut toucher. C'est cette réalité spirituelle qui est là, qui a été complètement niée par le matérialisme dans lequel nous vivons. Et Canal Journée aussi avait cette foi en la puissance du chapelet. Un jour, il arrive à l'hôpital de Fribourg, il fait la visite des malades, il va pour entrer dans une chambre, et puis il voit, la femme dit « Aïe, n'y rentrez pas, ouh là 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 !» Puis alors, il s'arrête, puis qu'est-ce qu'il y a? Hier, il y a un curé qui est rentré, il est sorti avec les souliers sur la tête, et hurlement du bonhomme qui est là-dedans, il ne peut pas voir les curés, ce type, vous savez, alors n'y allez pas. Canal Journée qui sait bien que quand une attitude comme ça, il y a souvent une blessure à la clé, à la base. n'y est pas rentré, mais il a juste ouvert la porte. Et le gars, il a vu, et... c'était parti. Il s'est mis à genoux sur le seuil de la porte à l'extérieur. À voix basse, il a pris le chapelet. À la fin du chapelet, il s'est relevé, il a voulu fermer la porte. Le gars a dit « Venez, père ». Il s'est approché. Le bonhomme s'est confessé. Le lendemain, il a porté la communion. Et le jour d'après, il mourait, avec le sourire sur les lèvres. Les cœurs durs, ils sont brisés par ça. C'est la douceur. Alors, la prière du chapelet s'est surtout répandue dans l'Église après un événement très très important qui était un tournant, je crois, pour l'Occident chrétien. C'était la victoire de Lépante, justement, du 7 octobre 1571. 5 octobre 1571, vous savez que les troupes turques, musulmanes, ottomanes, les Maures avaient pris une partie de l'Europe, étaient prêts à prendre Rome, enfin ils étaient prêts à envahir, ils étaient aux portes de Rome et tout ça. Les chrétiens avaient de la peine à résister. En plus, ils étaient complètement divisés entre eux à cause de la réforme. Donc certains étaient prêts à jouer, François Ier a joué d'ailleurs très souvent les Turcs contre, et les protestants contre la papauté. Enfin, il articulait ça un peu de tous les côtés. Et alors, le pape... Pie V, depuis 2 ans, faisait prier le chapelet pour qu'un jour les musulmans soient chassés de la terre européenne. À Lépante, la guerre s'est engagée, une guerre navale. Ça a été terrible. Les troupes étaient près de perdre. Alors là, on a fait prier le chapelet de tous côtés. Et finalement, avec des stratèges inspirés, la victoire a été acquise. Le pape, en action de grâce, a demandé qu'on célèbre Marie Notre-Dame des Victoires. Notre-Dame des Victoires. Alors on sait que c'est ce sourire de Marie Notre-Dame des Victoires qui a touchait le cœur de Thérèse de l'Enfant Jésus. « Je n'avais jamais vu un sourire pareil », dirait-elle, quand la Vierge lui sourit et qu'il la sort de sa torpeur et sa quasi-dépression. 2 ans plus tard, après avoir déclaré Notre-Dame des Victoires, le successeur de Pie V célébrera Marie comme Notre-Dame du Rosaire en l'honneur de cette victoire qui a été gagnée à l'époque. Jean-Paul II nous dit que, en fait, cette victoire de Notre-Dame du Rosaire n'a pas été une victoire simplement de la force, mais une victoire spirituelle quelque part. Son successeur, oui, appellera Marie Notre-Dame du Rosaire. Et Jean-Paul II dit, voyez-vous, il y a eu Lépante, la guerre, on a demandé à Marie de venir nous sauver d'un combat terrestre, mais en fait, le vrai combat est un combat spirituel. On a tous nos Lépantes, on a tous nos attaques. Et finalement, c'est contre ses ennemis, puisque dans la tradition biblique, chaque fois qu'on voit des combats et des guerres, il ne faut pas se tromper, ça fait appel au vrai combat spirituel qui se déroule contre les anges et les principautés des ténèbres, les puissances des ténèbres qui sont là et qui veulent nous attaquer, nous détruire et nous détourner de Dieu, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. On peut être pigeon de ce combat sans se rendre compte. Et bien voilà que l'arme du rosaire devient l'arme par excellence contre toutes nos lépantes et contre nos combats intérieurs, contre l'esprit de l'erreur et du mal, dira Jean-Paul II, qui prévaut aujourd'hui dans le monde. Voilà. Il ne s'agit pas aujourd'hui de solliciter de grandes victoires comme à Lépante, dit Jean-Paul II, mais il s'agit plutôt de demander à Marie de faire de nous de vaillants combattants contre l'esprit de l'erreur et du mal par les armes de l'Évangile que sont la croix et la parole de Dieu. Jean-Paul II avait situé l'espérance chrétienne. Et Marie est vraiment mère de l'espérance parce que Marie, voyez-vous, elle vit tout son combat dans la foi, dans la nuit de la foi. Quand l'ange est venu lui annoncer qu'elle allait être la mère du Sauveur, il n'y a pas eu un tremblement de terre, il n'y a pas eu un ouragan, il n'y a rien eu du tout. Il y a l'Esprit Saint qui est venu la couvrir de son ombre. Et c'est pas grand-chose, l'ombre de l'Esprit Saint. Ça produit beaucoup de fruits, mais sensiblement, c'est pas très impressionnant. Hein? Voilà. Et pourtant, se joue un miracle incroyable. Voilà qu'elle enfante le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Dans sa chair, elle donne chair au Fils de Dieu. C'est bouleversant. Elle porte l'espérance du monde à ce moment-là, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle qui est redonnée. Jésus est la vie éternelle, il nous ouvre les portes du ciel, il vient nous réconcilier avec le Père, il vient nous réapprendre à vivre en enfant de Dieu. L'humanité orgueilleuse qui avait rejeté Dieu, vous savez, l'athéisme n'a pu naître que dans un terrain chrétien. Aucune civilisation non chrétienne n'a pu être athée. C'est impossible d'être athée dans une situation non chrétienne, parce que comme on n'a pas la connaissance du vrai Dieu, on ne peut pas le rejeter. Et c'est seulement le christianisme qui a pu engendrer l'athéisme, parce que connaissant la révélation du vrai Dieu dans le visage du Christ, elle a pu dire « celui-ci, je n'en veux pas ». Les autres ont dit oh, « celui-là, on n'en veut pas, mais plutôt celui-là ». Ne connaissant pas, alors on a pu trier, on a toujours voulu un Dieu. Parce qu'on ne peut pas ne pas avoir de Dieu quelque part. Si ce n'est pas le Dieu qu'on adore, c'est nous-mêmes, ou c'est des idolâtries comme ça extérieures. Voilà que le christianisme a pu engendrer, depuis le 19e siècle, un athéisme, un rejet de Dieu. On va tuer l'espérance si on conduit la société au désespoir et à la présomption. Désespoir de ne plus savoir où se tourner, de ne plus savoir qui adorer, devant qui s'agenouiller. Et puis la présomption de croire pouvoir faire un monde par nos propres forces. Et au fond, ce que Jean-Paul II nous redit, et c'est ce que Marie vivra, c'est cette stupeur d'une rencontre, cet événement. Dieu n'est pas une idée, n'est pas une théorie, n'est pas un mythe. Jésus-Christ, c'est quelqu'un que l'on rencontre. La crise spirituelle qu'on connaît aujourd'hui n'a pas besoin d'un langage nouveau. Elle a besoin simplement de reprendre conscience et de reprendre vie, dans cet événement Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu il y a 2000 ans, c'est le même aujourd'hui qui vient au milieu de nous et on ne peut pas passer à côté quelque part, voyez-vous. C'est un événement toujours présent. Un mystique, Angelus Silesius, disait « Jésus peut naître 1000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas dans ton cœur, ça ne sert à rien. Il faut qu'il naisse dans ton cœur. S'il naît 1000 fois à Bethléem, pour rien, rien, rien. Il faut qu'il naisse dans ton cœur. » Alors là, il y a une expérience. Blaise Pascal, vous savez, le philosophe, avait fait cette expérience de Dieu à un moment donné. Il dit « L'an de grâce 1654, lundi 22 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr, veille de Saint Chrysogone, martyr, depuis environ 10h30 du soir, feu. » Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ, oubli du monde et de tout hormis Dieu, joie, pleurs de joie. Ceci est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que t'a envoyé Jésus-Christ. Et cette expérience de la rencontre de Dieu que fera Pascal en cette nuit, l'an de grâce 1554, le 22 novembre, eh bien, pour s'en accrocher, il la coud dans sa veste, ce petit bout de papier. Il coud dans sa veste comme ça, et d'ici un jour, je suis saisi par le doute, je vais déchirer ma veste, sortir le billet, et faire mémoire de cet événement, de la rencontre du Seigneur. Vous savez que Nietzsche reprendra ce texte de manière assez tragique. Si Dieu est, l'homme n'est pas, or l'homme est, donc Dieu n'est pas. Vous savez, le sophisme total, hein, comme si ça s'excluait l'un l'autre. Si Jules existe, donc Jacques n'existe pas. Jacques existe, donc Jules n'existe pas. Il est juste à côté. Bon, ouais, il y a un problème quoi, dans la logique. C'est la logique, mais il dira ça. Et alors, il reprendra ces paroles de Blaise Pascal. Joie, pleurs de joie. Pleurs de joie. Et quand Wagner se convertira, Nietzsche écrira à Wagner une lettre terrible. Quoi, toi aussi, tu es tombé dans cette superstition. Quoi, toi aussi, tu t'es agenouillé. C'est indigne de l'homme. Lâche que tu es. Hein? Pourtant, c'est l'agenouillement qui est la forme la plus grande. André Malraux, qui était cet écrivain et ce ministre de la Culture en France, raconte que, c'est pas lui qui raconte, c'est le père Bockel qui l'a connu, dans le Maquis, raconte que Malraux avait perdu ses deux enfants. Et donc, il était profondément éprouvé dans ses décès. Et le père Bockel lui dit, mais venez avec moi, on va à Jérusalem faire un pèlerinage. Et Malraux lui dit, non, je peux pas aller. Je peux aller à la Mecque, si vous voulez, je peux aller à Bénarès, mais je peux pas aller à Jérusalem. Car là, il faudra aller au Mont des Oliviers. Et alors, il faudra me mettre à genoux. Et ça, je peux pas. On voit cet agenouillement qui est l'attitude de la grandeur de l'homme. L'homme est grand qu'à genoux. Quelque part, je ne sais plus qui disait ça. Etty Ilesoun, qui est une juive, qui a aidé énormément de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est fait arrêter elle-même, dira cette phrase admirable. Le temps de l'action se termine, c'est le temps de l'espérance qui commence. Au milieu de l'enfer, dit-elle, parce qu'elle écrit des petits mots qu'elle sortait comme ça des camps de concentration où elle était, elle est morte gazée, au milieu de l'enfer de la déportation, le seul geste de dignité humain qui nous reste en cette époque terrible, s'agenouiller devant Dieu. Vous savez qu'André Frossard, qui était le fils du premier secrétaire du Parti communiste français, qui était athée, militant et non-croyant, voit une église un jour ouverte le soir, puis passe devant. Et c'est lui-même qui raconte en « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Alors il regarde un peu l'assistance, il voit un petit peu ces gens qui sont là, et dit « Il y avait deux cierges qui brûlaient, une grande croix ». Et c'est alors que se déclencha la série de prodiges dont l'inexorable lance va démanteler en un instant l'être absurde que je suis et faire venir au jour ébloui l'enfant que je n'ai jamais été. Et il dira, voilà, je suis là, je vois au milieu de l'autel d'abord des cierges, des fleurs, un truc doré, au milieu un truc blanc, c'est l'hostie, il ne sait pas ce que c'est, il ne connaît rien du tout. Il tombe à genoux et il pleure. Et il dira tout d'abord, ces mots me sont suggérés, vie spirituelle, je me dis que le ciel s'ouvre, il ne s'ouvre pas, il s'élance, il s'élève soudain, fulgurance silencieuse de cette insoupçonnable chapelle dans laquelle je me trouvais mystérieusement inclus. Je me relève et je ressors catholique romain. Voilà. Hein, cette espèce d'expérience de Dieu, cette rencontre de Dieu. Si Dieu permet des choses comme ça, c'est pour nous parler, pour nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe, voyez-vous. Et Tatiana Goritcheva, vous savez, cette femme communiste, elle était danseuse, artiste et tout. J'ai commencé à vivre, dit-elle, en découvrant Dieu. À 19 ans, j'avais lu Nietzsche, Sartre, Camus et Heidegger. J'avais fait du yoga, j'avais mon mantra. Et un jour, j'ai lu comme un mantra le Notre Père. À la manière d'un mantra. C'est le mantra, c'est le truc qu'on répète comme ça, om, om, om. Notre Père. J'ai lu 6 fois. L'ayant lu environ 6 fois, j'en fus soudain comme retourné. Ce ne fut pas ma raison idiote, mais tout mon être qui comprit qu'il existait. Lui, le Dieu vivant, personnel, qui m'aime et qui aime toute la création. Ce Dieu qui a créé le monde et qui s'est fait homme par amour. Ce Dieu crucifié et ressuscité. En une seconde, le mystère du christianisme se révéla à moi. La vie véritablement me plaça dans cette vie. J'étais réellement sauvé. Je t'ai réellement sauvé. Ce que Marie va pouvoir faire, c'est nous conduire à vivre cette expérience qu'elle-même a vécue, que tant d'amis de Dieu au cours des siècles ont vécu, que nous-mêmes avons vécu ou allons vivre, je l'espère, cette rencontre personnelle avec Dieu. Je passe là à l'Apocalypse parce que, voyez-vous, dans l'Apocalypse, il y a dans tout le livre de la révélation, puisque c'est ça, Apocalypse dit révélation, dans tout ce livre, ce mystère de la rencontre avec un Dieu qui était mort et qui est ressuscité, qui est vivant, devant laquelle le ciel entier se prosterne. On a comme dans l'Apocalypse cette ouverture du ciel et de la terre. On voit en deux plans, j'allais dire, comme si on était à cette hauteur-là avec le plan du ciel et le plan de la terre, tout le mystère de l'amour de Dieu qui se déploie devant nous et de la victoire de l'agneau immolé sur toutes les forces des ténèbres et du mal. Dès le début de l'Apocalypse, il y a l'Église qui est là. L'Église, c'est le Christ qui est au centre de l'Apocalypse, bien sûr, mais le Christ inséparable de l'Église, inséparable de nous. À travers tout l'Apocalypse, on voit le Christ époux de l'Église, qui aime l'Église, qui s'est livré pour elle, qui vient racheter l'Église, qui vient la sauver, qui ne cesse de la poursuivre de son amour et de sa tendresse et de sa délicatesse. Le Christ qui veut sauver une Église, non pas qui plane dans les nuages, mais qui est réellement sur la terre. Un Christ qui vient nous sauver, nous, chacun, avec les deux pieds sur la terre, là où nous sommes. Voilà. Si l'Apocalypse a ce regard, il faut donc écouter ce qui nous est dit dans ce texte pour essayer de rentrer dans ce chemin de conversion. Comme le combat, je vous le disais tout à l'heure, se joue autour de la femme, à cause du fils, mais autour des enfants de la femme aussi que nous sommes, eh bien, il faut bien comprendre quel est le combat dans lequel nous sommes engagés. Et combien Marie va nous protéger, va protéger ses enfants, elle qui fuit dans le désert pour nous protéger. Elle nous protège en nous donnant l'arme du chapelet. Le roi syrien a son général Naaman qui atteint de la lèpre et comment s'appelle-t-il, celui qui lui dit va chez moi, il y a un grand prophète Élisée, il pourra te guérir. Alors il arrive là avec toutes ses troupes, avec des trésors incroyables, des richesses incroyables. Il demande au roi des Juifs où est-il ce prophète. Alors il désigne Élisée, il vient trouver Élisée. Élisée lui dit va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Tout ce chemin pour ça? Non mais ça n'a pas la tête. Et ça, les gens chez moi, ils arrivent à me dire aussi. Allez me planter 7 fois dans l'eau. Non mais faire tout ce boulot pour ça, donner... Non, ça ne marche pas. Alors là, je vais pigeonner. Un de ses collaborateurs lui dit, non, mais écoute, si tu avais dit de faire 1000 choses extrêmement compliquées, terriblement intellectuelles ou terriblement difficiles, tu aurais tout fait. Et tu vas faire un truc tout facile, puis tu ne veux pas faire. Mais accepte, au moins. Il va 7 fois se baigner dans le Jourdain et il sort avec une peau de bébé, dit-on. Voilà. Eh bien... Si Marie nous a demandé de faire énormément d'exercices physiques, de faire des positions de yoga avec des choses incroyables pour essayer d'obtenir le salut et d'obtenir la victoire avec toutes sortes de méditations et de lévitations, on serait exercé à le faire. Ça nous dit, vous prenez ce petit truc, puis vous priez simplement, comme des bébés, comme des enfants, simplement. Alors on dit, alors qu'est-ce qu'elle raconte là, c'est trop simple, oh là là, faire ça à nous. Ben oui, c'est comme pour Naaman le Syrien. Ça paraît très simple, mais c'est efficace. Je voulais regarder les 7 lettres qui nous sont données, 7 lettres de l'Apocalypse, pour voir un petit peu ce que Dieu veut nous dire et comment Dieu veut nous interpeller à travers ces lettres. 7, c'est un chiffre symbolique, vous le savez, qui veut dire la plénitude. Il y a plusieurs interprétations de ces lettres. On disait, voilà, c'est 7 temps de l'histoire de l'Église. On a passé de... Chaque Église représente un temps. D'autres ont dit, elle s'adresse effectivement à cette Église qui se trouvait... dans l'Asie mineure, c'est-à-dire en face de la Grèce, à l'est de la Grèce. C'est cette église se trouve située géographiquement dans cette région. Et d'ailleurs, certaines références qu'évoque Saint Jean se réfèrent à des réalités de ces villes, des bains, des choses comme ça, des productions de textiles et tout ça. Voilà. On peut dire aussi que nous sommes chacun et chacune interpellés par ces textes. C'est cette église. Enfin, c'est notre propre vie. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint, nous sommes le temple de Dieu et nous sommes nous-mêmes interpellés par cela. Alors voyons voir comment on peut se laisser déranger par cette lettre pour retrouver la ferveur et la vigueur de notre foi chrétienne. La lettre à l'église d'Éphèse, tu écriras ceci à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ce sont toutes des images du Christ qu'on retrouve dans l'Apocalypse aussi. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je connais ta conduite, ton labeur, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as constaté qu'ils étaient des menteurs. Tu ne manques pas de persévérance, car tu as beaucoup supporté pour mon nom sans jamais te lasser. Hein, on voit que Dieu... Salut la ferveur, il relève tout ce qu'il y a de bon dans cette église. Il voit tout, il voit le bien et le mal, et il voit tout ce qu'il y a de beau. Première chose, il leur dit, voilà, c'est beau, des choses merveilleuses chez vous. D'abord, tu as lutté contre les erreurs, ensuite tu as persévéré dans l'épreuve et la persécution à laquelle tu t'es soumise. Tu as persévéré, et c'est beau de persévérer. Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour des premiers temps. Voilà. Il y a quand même un petit reproche. Tu as perdu la ferveur de ton premier amour. Rappelle-toi donc d'où tu es tombé. Convertis-toi, reviens à ta conduite première. Sinon, je vais venir à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne te convertis pas. Pourtant, ce que tu as de bon, c'est que tu détestes les agissements des hérétiques que je déteste moi aussi. Voilà, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur, je lui donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il y a une promesse aussi, hein, c'est de partager ce repas avec Dieu. Alors voyez-vous, il a, contre l'église d'Éphèse, elle paraît parfaite cette église. Hein, on peut être très parfait dans nos pratiques religieuses, dans nos attitudes religieuses. On peut discerner le bien et le mal. Elle sait discerner le bien et le mal. Les erreurs et les hérésies, elle les rejette. Et ce qui est vrai et bon et ce qui plaît à Dieu, elle sait le faire. Mais au fond, ce qui lui reproche, c'est l'ardeur et la ferveur du premier amour. Voilà, c'est ça qui lui reprochait. Imaginons les jeunes amoureux qui sont là. Alors, il y a les petits mots, il y a le cœur qui fait boum boum, il y a tout ça qui est là, on y pense, tout ça et tout. Et puis, on s'habitue, malheureusement. Hein, on s'habitue. Si l'amour n'est pas nourri, si l'amour n'est pas entretenu, il prend d'autres formes, bien sûr, au cours des temps. Bien sûr, il ne va pas rester toujours cet amour passion affectif qui est là au départ, mais il va s'enraciner dans une ferveur toujours grande. Et voilà que, à ces chers Éphésiens, Dieu reproche d'avoir perdu la ferveur du premier amour. Mais demandons à Dieu, si vous le voulez bien aussi, de retrouver la ferveur du premier amour, car si l'on rattache cette lettre à l'Église à une béatitude, on pourrait dire que c'est bienheureux les artisans de paix. Bienheureux les artisans de paix. Parce que si on rentre dans cette paix de Dieu, c'est véritablement qu'on a choisi Dieu en premier, l'amour de Dieu par-dessus tout. Et Jésus se présente à nous comme le roi de paix, qui va établir la paix dans nos cœurs. Et cette paix du cœur, c'est ce choix premier de Dieu qui va ordonner toute notre action, toute notre vie. Et quand notre vie est ordonnée, bien on a la paix du cœur, c'est sûr. Mais cet amour de Dieu doit être d'autant plus fervent qu'on a beaucoup de choses à mettre en ordre. Alors, deuxième lettre, la lettre à l'église de Smyrne. Tu écriras encore ceci à l'ange de l'église qui est à Smyrne. Ainsi parle celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà, il s'annonce, il était mort et il est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. Je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs. Ils ne le sont pas vraiment. C'est une synagogue de Satan. Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Voici que le démon va jeter en prison certains des vôtres pour vous mettre à l'épreuve. Et vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. On voit bien cette église, il l'appelle à être forte au milieu de la persécution. Et ce que Dieu lui dit, bah, tu es pauvre, c'est vrai. Tu es pauvre. Hein, tu es pauvre. Je vois bien, tu as des faiblesses. Mais ce n'est pas ça qui me gêne. Au contraire, ça me fait craquer pour toi. Ce que je te demande, c'est d'être persévérant jusqu'au bout. Je te demande de durer, d'aimer sans réserve, sans peur, d'aller tout au fond de l'amour, tout au bout de l'amour. N'aie pas peur, dit Dieu, je serai avec toi. Le Christ martyr, il se présente comme le martyr, celui qui a souffert sur la croix et qui a vaincu. Voilà le signe et le gage de cet amour de Dieu pour cette Église. J'étais mort et je suis vivant aujourd'hui. Voilà pourquoi tu peux persévérer jusqu'au bout. Tu peux ne pas désespérer devant ta pauvreté, ta faiblesse. Tu peux ne pas désespérer devant les persécutions que tu subis. Parce que je suis avec toi, parce que je suis vivant, ressuscité. C'est le don de force de l'Esprit-Saint qui va être donné à cette église de Smyrne. Alors vous voyez, hein, la première chose, eh bien, retrouver la ferveur du premier amour. Deuxième chose, ne pas se soucier de notre pauvreté, de notre faiblesse. Ne pas se soucier des combats que l'on peut mener. Aller de l'avant, les yeux fixés sur le Christ Jésus. Hein, c'est toujours cette image de Saint-Pierre qui marche sur les eaux. S'il regarde les eaux, il coule. Si on regarde vers le Christ, eh bien on avance. C'est la spiritualité de la bicyclette, vous savez. C'est très efficace, la spiritualité de la bicyclette. Quand vous allez en vélo, que vous regardez la roue, eh bien le prochain mur, il est pour vous. C'est sûr, vous n'y échappez pas. Si vous regardez droit devant, le mur, vous pouvez l'éviter. C'est la meilleure manière d'éviter le mur. Alors, il faut regarder plus devant, pas juste devant nous. Voilà. Et plus devant, c'est le Christ vainqueur et sauveur. À l'église de Pergame, il est dit la chose suivante. Voilà, ainsi parle celui qui a le glaive acéré à deux tranchants. Chaque fois qu'il y a une image qui touche le glaive acéré à deux tranchants, c'est le glaive de la vérité, de la parole de Dieu, qui va jusqu'à la jointure des moelles et ça graille, ça fait un peu drôle. Hein, ce glaive de la parole de Dieu qui sépare ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bien de ce qui est mal, avec une aisance. Hein, notre cher Valézane a gagné la médaille d'argent à l'escrime, il fallait viser juste. Ben, le glaive de la parole de Dieu, il vise juste, ça je peux vous dire. Et ça transperce, même toutes les gardes rapprochées qu'on voudrait essayer d'opposer. Elle va jusqu'à la jointure des moelles, et là elle fait la vérité. Alors, voilà comment Dieu se présente. « Je sais où tu demeures, c'est là que Satan a son trône. » Mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ta foi en moi. Même dans les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous. là où Satan demeure. Donc c'est une église en pleine persécution, en plein lieu d'hostilité. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak le moyen de tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles et qu'ils se prostituent. De même, tu as toi aussi des gens attachés à des doctrines des Nicolaïtes, c'était une hérésie de l'époque. Convertis-toi donc, sinon je viens à toi sans tarder et je combattrai avec le glaive qui sort de ma bouche. Voilà, celui qui a des oreilles qui l'entendent. Alors, au fond, cette église se trouve au milieu d'un monde difficile. Ce monde est très difficile. Vous voyez bien, c'est un monde de combat, d'erreurs, de mensonges, très proche au fond un petit peu du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quand on entend les doctrines que l'on répand, les idéologies qui sont répandues dans le monde, bien c'est vrai que la foi chrétienne paraît complètement dérisoire. On rit de la foi chrétienne. Parce que la majorité n'est pas du tout de ce côté-là. Et Dieu lui-même dira, il arrivera un temps, on fera passer pour bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Ben voilà, c'est un petit peu ce temps dans lequel on vit et on baigne. Si le Parlement suisse vient de reconnaître récemment la dignité particulière des animaux, tout en autorisant l'avortement jusqu'à 12 semaines, ben on se dit qu'il y a un problème dans un État qui a une telle inconséquence. Mais on n'a pas parlé de l'avortement des animaux, attention, il ne faut pas exagérer. Pas exagérer, non, là, il faut bien qu'il reste jusqu'à... à croissance, on leur fera des belles cages. À Evolène, un jour, une dame, à l'un de ses vieux chalets, on vient la voir, on dit, écoutez, votre écurie, elle est plus conforme. Elle est plus conforme. Il n'y a pas assez de luminosité, les fenêtres ne sont pas assez grandes. Une maison du 18e, ou comme ça. C'est pas 1700 et quelques. C'est pas conforme. Il faudra agrandir le truc. Alors, elle dit, qu'est-ce que je fais? Je garde mes 5 vaches? Ou bien j'abandonne tout? Je laisse tomber, faire des frais pour cette... Ah, tant pis, les vaches. Et la reine. Alors, garde les vaches, puis j'agrandis le truc. Alors elle a grandi le truc, elle fait les réparations, puis elle dit, puis moi je suis pas une vache, je suis une femme, mais ma fenêtre de cuisine elle est grande comme ça. Alors j'ai demandé pour ouvrir la fenêtre de la cuisine. Non, bâtiment historique, interdiction de modifier la façade du bâtiment. Et alors, elle dit, mais qu'est-ce que je fais? Je vais les mâcher à la cuisine, puis moi je vais à l'écurie alors, pour avoir un peu de lumière. Voilà. Une incohérence comme ça. Ben voilà, on baigne dans ce monde, c'est un peu l'église de Pergame. Et au fond, ce que Dieu lui dit, mais fais gaffe, parce que certains se laissent piéger. Certains se laissent piéger parmi vous, par des fausses doctrines. Ils sont prêts à faire des compromissions avec le monde. Ils sont prêts à faire des compromissions avec cette doctrine. Un peu comme les Sadducéens à l'époque de Jésus-Christ. Comme les Romains étaient les envahisseurs, et qu'on avait un petit peu peur des Romains, ben on était prêts à renoncer à la résurrection de la chair. Parce que ça fait un peu drôle quand même, la résurrection de la chair, ce que croyaient les pharisiens d'époque. Il vaut mieux, je ne sais pas trop quoi, la réincarnation aujourd'hui, ou je ne sais pas quoi. Hein, le pape, qu'est-ce que c'est que ce vieux gribou qui est là, il boite et il tremble, alors à quoi bon? T'as raison, laissons tomber, c'est pas grave. Hein, enfin, toutes ces choses qui choquent le monde, qui quelque part interpellent le monde, parce que c'est mystérieux, c'est vrai. Il faut un autre regard, il faut le regard de foi. Si on regarde uniquement avec les yeux de chair cette réalité du pape et qu'on n'a pas un regard de foi sur le mystère qu'il représente, on pige rien du tout, on a bien raison d'ailleurs. Ben, les gens ont commencé à faire des compromissions avec tout ça. Dieu les rappelle en disant, attention, tu es généreux, tu as des bonnes intentions, mais ça ne suffit pas. Il faut que tu aies une doctrine qui soit solide. Tu ne peux pas dire n'importe quoi, tu ne peux pas adhérer à n'importe quoi. Laisse-toi pas happer par l'esprit du monde. Voilà ce que Dieu rappelle, et je crois que c'est assez actuel, ce genre de choses, de retrouver la doctrine qui est celle de toujours. Ça, c'est l'église de Pergame. Pour l'église qui est à Thyatire, je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton sens du service, ta persévérance et ta conduite plus active ces derniers temps qu'au début. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs en les enseignant à se prostituer, à manger des viandes offertes aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se convertir, mais elle ne veut pas se convertir de sa prostitution. Voilà que je vais la mettre au lit, ainsi que ceux qui ont commis l'adultère avec elle. Ils seront dans une grande détresse, à moins qu'ils ne se convertissent de la conduite qu'elle leur a fait mener. Voilà un petit peu ces sanctions qui sont là. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'Église qui attire, elle aussi est séduite. Pas de la même manière. L'église de Pergame, elle est séduite par des doctrines qui sont fausses. L'église de Thyatire, elle est servante, elle est fidèle, elle fait beaucoup d'actions sociales, elle est très généreuse. Oh là là, ça marche. Mais elle se laisse séduire. Ce qu'elle a perdu, l'église de Thyatire, c'est au milieu de son activisme social, c'est l'adoration. Elle adore une idole. Jézabel conduit cette église à adorer des idoles, à sacrifier à des faux dieux. Elle est bien généreuse, elle fait un tas de choses, elle est très sociale. Mais il manque l'essentiel de la foi chrétienne, qui est l'adoration du Dieu, hein, et trois fois saint. Alors cette église a perdu l'adoration, et donc elle ne sait plus très bien où elle en va. Elle est prête à sacrifier aux idoles tout en ayant une action sociale admirable. Vous savez que la tentation ultime qui guette l'humanité, celle qui est relevée dans l'Apocalypse et dans d'autres textes de Saint Matthieu, de Saint Luc et de l'Épître aux Thessaloniciens de Saint Paul, c'est au fond l'humanitarisme. C'est une espèce de générosité sans le Christ. Au siècle passé, on avait lutté, et ça, toutes les écoles du socialisme et du marxisme avaient dit « on ne veut plus de la charité chrétienne, on veut la justice ». Ce qu'on n'avait pas compris, ça c'était une erreur philosophique depuis le XVIIIe siècle, c'est qu'on a opposé la justice et la charité. Depuis Aristote, 5 siècles avant Jésus-Christ, et partout dans toutes ces civilisations, on avait compris qu'il n'y avait pas d'opposition entre la justice et la charité. La justice était la mesure minimale de la charité ou la porte d'entrée de la charité. Puisque la justice n'était pas ce que je revendique pour moi, l'égoïsme au pouvoir, c'est ce que moi je faisais à l'égard des autres. Et saint Augustin disait « je préfère subir l'injustice que de la commettre ». Cette injustice est un mouvement dynamique de moi vers l'autre pour lui donner ce à quoi il avait le droit, ou ce dont il avait besoin. Un mouvement de charité donc, puisque le mouvement qui fait partir de moi vers l'autre est un mouvement d'amour. Au XVIIIe siècle, XIXe siècle surtout, on a fait l'inverse. La justice est ce que je revendique pour moi. Et du coup, oui mais moi, hein, mais moi. Hein, ça d'une dame qui était venue à la chapelle du C, elle me dit, vous savez, mon fils a un grave problème, il a l'air très triste, c'est vrai. Je dis, c'est quoi son problème? Il doit porter des lunettes. Je dis, mais moi aussi, oui, mais mon fils, ah, je dis, oui, c'est vrai, pardon, je n'avais pas compris. Je dis, peut-être qu'il y a autre chose. Elle voulait savoir combien était le miracle. Ça ne s'achète pas. Voilà. Alors, voyez-vous, il y a une générosité, mais il y a l'adoration qui a disparu, la primauté de Dieu qui a disparu. Et au fond, l'humanitarisme, ce sera un comportement qui ressemble à la charité chrétienne, qui ressemble à ce qui a transfiguré le monde depuis 2000 ans. À travers toutes les conneries qu'ont fait les chrétiens aussi, toutes les saloperies qu'ils ont pu faire, mais quand on regarde les héros de l'humanité, la transfiguration du monde, le développement du monde, eh bien même les philosophes et les historiens athées sont obligés de constater que c'est dans le terreau chrétien que les grands développements se sont faits. Eh bien, même s'il y a eu des grandes erreurs et des grandes bêtises qui ont été faites aussi là-dedans, pour lesquelles le pape a demandé pardon il n'y a pas longtemps. Eh bien là, au milieu de ça, il y aura cette parodie du christianisme qui est limitée à l'action sociale, sans le Christ et sans l'adoration. Dieu sait si c'est important, puisque on sera jugé sur l'amour, et sur l'amour qu'on aura eu envers les plus pauvres, Matthieu 25, j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu. Mais si on coupe cela de l'amour de Dieu, la première partie du commandement, eh bien, ça devient de l'humanitarisme. Et l'humanitarisme, c'est de l'athéisme pratique. De l'athéisme pratique. Il y a l'athéisme doctrinal, où j'affirme que Dieu n'existe pas. Puis il y a l'athéisme pratique, c'est faire comme si Dieu n'existait pas. L'église de Sardes. Ainsi parle celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais ta conduite. Tu as la réputation d'être vivant et tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste, ce qui est en train de mourir, car je n'ai pas trouvé que ta conduite soit parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu la parole. Garde-la fidèlement et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Mais chez toi, Sardes, il y en a quelques-uns qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils l'ont bien mérité. C'est ainsi que le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Je me prononcerai pour lui devant mon Père et devant ses anges. Voilà, ce qu'il y a des oreilles qui l'entendent. Cette église, elle a l'apparence de vie, mais elle est morte à quelque part. Elle est peut-être efficace, elle a des comités, des commissions, beaucoup de choses comme ça, mais elle est morte, il n'y a plus la vie. Et nous, on peut avoir une apparence de vie aussi, faire des choses, mais il manque l'essentiel, il manque le feu intérieur qui donne sens à tout ça. Voilà. Dieu ne regarde pas les résultats des choses, il regarde d'où jaillit la flamme qui nous fait agir. Quel est le désir qui nous fait agir? Quelle est la ferveur qui nous fait agir? Quelle est l'origine de ce qui nous fait agir? Cette église, eh bien, est appelée à se convertir, à revenir à Dieu, à faire la vérité, à être vigilante. Or, voyez-vous, Jésus dit à un moment donné « veillez et priez ». C'est une phrase très importante. Saint Augustin, quand il commente cette phrase « veillez et priez », ne dit pas, il ne s'agit pas de rester debout 24 heures sur 24 avec les yeux ouverts, avec les allumettes comme ça pour essayer de voir ce qui se passe, pour ne pas dormir. Ce n'est pas de cette veille-là que le Seigneur parle, parce que là, il serait inconséquent avec lui-même. S'il nous donne le besoin de dormir en même temps, il nous demande de rester éveillé, ce n'est pas possible. C'est incohérent. Par contre, veiller, dit-il, c'est être attentif à nos pensées, à nos paroles, à nos actions. Et de chaque fois, non pas pour se regarder soi-même, mais pour les ordonner à ce que Dieu veut, pour rester en présence de Dieu à tout instant. Il y a des fois un cinéma intérieur, Hollywood, c'est rien à côté de nous, quoi. Ils produisent pas autant que nous. Impossible. Impossible. Ah, ça marche. Blah, il y a un film, et un autre qui se met par-dessus, un troisième par-dessus. Et c'est reparti avec le premier. Et voilà. Comme ça, de tous les côtés. Puis en fait, on passe des heures comme ça, sans penser au bon Dieu. Si on pouvait remplacer peut-être ce cinéma intérieur par la présence de Dieu, l'image de Dieu, ce soliloque, ce monologue intérieur par un dialogue avec le Seigneur, ça ferait du bien, vous savez. Ça ferait du bien. C'est plutôt que se parler à soi-même, on parle au bon Dieu, on lui dit bah, « tu es là, merci, voilà, je t'aime ». Ça changerait beaucoup les choses. Si notre pensée est occupée par la présence de Dieu, cette vigilance dont parle le Christ, et bien sûr cette attention constante à cette réalité invisible qui est à côté de moi, qui est en moi, qui est là, que je ne vois pas avec mes yeux de chair, mais il y a un tas de choses que mes yeux de chair ne voient pas, ça les enfants comprennent très bien. Il suffit qu'il y ait un tracteur au milieu d'une salle sombre qui se casse la figure dessus, ils ont compris qu'il n'avait pas vu mais que ça fait mal. Donc il y a une réalité invisible aux yeux de chair qui est bien réelle. Cette réalité invisible aux yeux de chair, qui est la présence de Dieu, ben, il faut la redécouvrir par cette vigilance, cette attention. Quelqu'un disait, pour entendre le pianissimo de la parole de Dieu, la présence de Dieu discrète et pourtant puissante dans ma vie, il faut se brancher sur la hi-fi. La hi-fi, c'est la high fidelity, c'est la haute fidélité. Ce n'est pas une marque de chaîne stéréo, cette haute fidélité à la parole de Dieu, cette haute fidélité au Seigneur qui est là, cette écoute attentive. L'église de Philadelphie, petite église, ainsi parle le Seigneur le véritable, celui qui a la clé de David, voilà. Je connais ta conduite. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que qu'avec le peu de force que tu possèdes, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Voici que je vais te donner des gens de la synagogue de Satan, eux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici que je les ferai venir et se prosterner à tes pieds. Ils reconnaîtront que moi je t'ai aimé. Puisque tu as gardé ma consigne de persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens sans tarder, tiens fermement ce que tu as pour que personne ne te prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Je n'en sortirai jamais et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon propre nom nouveau. Cette église de Philadelphie, elle est fidèle, elle est pauvre, elle n'a pas grand-chose, elle n'a pas beaucoup de puissance, mais elle a une chose, une puissance extraordinaire, c'est de ne pas renier le nom de Dieu. Ça, c'est le monde à l'envers et la vie à l'endroit, encore une fois. Parce que Dieu se sert des pauvres et des petits et des humbles pour renverser le monde. Hein, quand on voit, oui, ce sont des lieux les plus cachés que l'histoire se renverse. C'est depuis les goulags que le mur de Berlin est tombé. C'est pas avec Gorbatchev et Reagan. Ils ont joué un rôle, c'est vrai, faut pas. C'est pas le rôle essentiel. Le rôle essentiel, ce sont ces millions, ces 100 millions de martyrs qui ont versé leur sang. Et le mur de Wall Street, eh bien, va s'effondrer aussi par des gens cachés qui prient, qui intercèdent pour que Dieu ait sa place au cœur de notre monde et de notre société. Cette église de Philadelphie, eh bien, elle est reconnue avec cette délicatesse de Dieu. Elle est reconnue fidèle au Seigneur. Elle est petite, elle est faible, mais Dieu s'en sert puissamment pour confondre les sages et les savants de ce monde. C'est le procès de Jeanne d'Arc, la petite Jeanne d'Arc, devant 100 docteurs et théologiens. Elle est là, devant 100 docteurs, et elle pose des questions. Quand vous avez vu Saint-Michel, était-il nu? Grande question, vous imaginez, parce que la pudeur est en cause. Vous croyez que Dieu n'a pas de quoi habiller ses anges? Alors Dieu n'aime pas les Anglais, puisqu'il vous a chargé de la mission de les chasser hors de France. Si, mais chez eux, beaucoup. Êtes-vous en état de grâce, alors? Si je ne suis pas que Dieu va m'y mettre, j'y suis que Dieu va m'y garder. Et les théologiens sciaient. Confondre les sages par ces pauvretés, cette simplicité. Voilà. Et Dieu se sert aujourd'hui, on a tant d'exemples. Puis dernière église, c'est l'église de Laodicée. Je connais ta conduite, tu n'es ni froid ni chaud. Mieux vaudrait que tu sois froid ou chaud. Ainsi, puisque tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Dieu qui parle, hein? Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te donne un conseil. Viens acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir riche des vêtements blancs, pour te couvrir et cacher la honte de ta nudité. Un remède pour te frotter les yeux afin que tu vois clair. Tu comprennes qui tu es. Tout ce que j'aime, je leur montre leurs fautes, je les châtie. Sois donc fervent et convertis-toi. Hein, cette illusion dans laquelle on peut rester, dans cette tiédeur dans laquelle on n'est ni froid ni chaud comme ça, puis Dieu vient nous secouer en disant, mais écoute, regarde, je vais t'ouvrir les yeux sur ta propre réalité. Tu es ni froid ni chaud, et c'est dur cette parole. Je te vomirai de ma bouche, c'est quand même pas très agréable. Je disais tout à l'heure que ce lettre de l'Apocalypse, c'est des lettres de l'époux qui nous aime et qui est mort pour nous, à une épouse qu'il veut amener au même lieu où il lui est, c'est-à-dire au ciel. Donc si on ne comprend pas que ce sont des lettres d'amour pour nous conduire dans la gloire avec lui, on ne comprend plus rien. On dit, mais alors c'est dur, bon Dieu il semble nous rejeter. Mais non, il veut notre bonheur et notre salut. C'est pour ça qu'il nous remet les pendules à l'heure, pour qu'on ne se trompe pas de chemin et qu'on aille vraiment au ciel avec lui. La chose la plus belle, voyez-vous, si on rentre dans ce chemin, un des plus beaux textes de toute l'Écriture sainte. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Les vainqueurs, je les ferai siéger près de moi sur mon trône. Comme moi-même, après ma victoire, je suis allé siéger près de mon Père sur son trône. J'entrerai chez lui. Je prendrai avec lui mon repas. Voilà, c'est Dieu qui vient habiter notre cœur. C'est Dieu qui vient établir en nous notre demeure. C'est les plus belles paroles de l'Écriture sainte. Dieu veut habiter en nous, voyez-vous. Alors qu'il nous secoue avant, c'est pour nous donner un trésor, sa présence en nous. S'il veut qu'on soit brûlant, c'est pour l'accueillir, lui, le feu de l'amour dans notre cœur. C'est pas pour rien. Il y a une finalité à toutes ces paroles. C'est l'amour, finalement. À Éphèse, retrouver la ferveur du premier amour. À Smyrne, d'aller plus loin dans l'amour, de persévérer jusqu'au bout, de ne pas lâcher en cours de route. À Pergame, de lutter contre les hérésies. À Thyatire, de ne pas se fier à nos œuvres, mais de rentrer dans l'adoration. À Sardes, l'apparence de la vie, mais c'est mort. Il n'y a plus de ferveur, il n'y a plus de source. On n'est plus branché sur la source. Et donc, on fait des choses, on s'active. Mais comme il n'y a pas de source, ce n'est pas fécond. C'est peut-être efficace, mais ce n'est pas fécond. Une grande différence entre l'efficacité et la fécondité. À Philadelphie, c'est la voix de la petite enfance. C'est toute petite, mais je ferai de toi un pilier contre tous les grands de ce monde. C'est la petite Thérèse aussi. Philadelphie. Et puis la Odyssée, renonce à ta tiédeur et tu découvriras le plus grand trésor, celui de ma présence en toi. Alors avec Notre-Dame du Rosaire, rentrons dans ce combat spirituel où ces églises nous interpellent et nous conduisent à retourner à Dieu de tout notre cœur, à revenir à lui de tout notre cœur, pour la manifestation dans nos cœurs, dans nos vies, à la face du monde, que Dieu nous aime et qu'il est Seigneur de l'histoire et qu'il tient dans sa main le cœur de l'homme.